Actu SF, les podcasts.
Bienvenue dans cette table ronde sur les romans historiques sur la Première Guerre mondiale. Hein, romans historiques sur la Première Guerre mondiale, point d'exclamation, c'est le sujet de cette table ronde. Et je vais commencer par présenter brièvement nos auteurs. Alors, je vais commencer par Isabelle Fournier, vous êtes là, excusez-moi. Donc Isabelle Fournier est professeure des écoles et cofondatrice de Mission Explo. Elle vit et travaille à Verdun, ce qui est peut-être important d'ailleurs pour notre sujet. Elle enseigne en école élémentaire depuis 10 ans et cette expérience l'a incitée à fonder Mission Explo qui conçoit des supports donc pédagogiques pour inviter les enfants à acquérir de nouvelles connaissances. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Isabelle ? Non, ça va ? Bien. Sylène Edgar, auteur pour la jeunesse, professeur, auteur donc d'une trilogie d'anticipation post-apocalyptique. Et pour adultes, elle s'est aussi essayée dans la collection donc du Jasmin, à des contes érotiques et fantastiques. C'est ça ? Oui, voilà. Elle écrit également de la fantasy burlesque et elle a également coécrit, alors ce qui est peut-être plus intéressant pour notre sujet, 14-14 avec Paul Béorn, un roman pour adolescents qui rapproche deux jeunes gens, l'un vivant en 2014 et l'autre en 1914. Voilà. Donc, Daniel Martinigold. Donc, tout le monde connaît Daniel, je vais la présenter. Mais oui, je vais la présenter un petit peu quand même. Alors, Daniel, eh bien, d'abord, fut enseignante entre 1972 et 2009. Et c'est pour ses enfants et ses élèves qu'elle s'est un jour lancée dans l'écriture de SF sur le thème de l'écologie, suivant la règle des 3 A. Alors ça, j'aime beaucoup. Amour. Aventure ailleurs. Et évidemment, elle va mettre en pratique cette règle des 3 A, donc dans deux romans qui ont été très souvent récompensés, qui sont vraiment réédités là aussi, enfin qui continuent d'être réédités. L'or bleu, par exemple, et Les abîmes d'outre-mer chez Mango, qui a d'ailleurs reçu le grand prix de l'imaginaire. Voilà, maintenant, eh bien, Danielle n'est plus enseignante, mais elle continue son travail d'écrivain, son travail pédagogique. Et sa dernière aventure, eh bien, ce sont les aventures à Guédelon chez Actu SF, qui a commencé donc en 2016. Voilà, et elle travaille avec le château de Guédelon, ce qui est quand même une belle, moi je trouve une belle aventure et une belle collaboration. Voilà, Charlotte. Donc Charlotte, qui est philosophe de formation, je vais aller vite, Charlotte, que tout le monde connaît ici. Et donc, Charlotte donc, est écrivaine de fantasy, d'ailleurs, plus que de science-fiction, hein, je crois. Voilà, et elle a fondé également une maison d'édition avec Fabien Fernandez et une collection, notamment, qui est une collection humanitaire dont, finalement, les fonds sont versés, donc, effectivement, pour des populations donc, qui en ont besoin. C'est ça, Charlotte ? Voilà. Hein, voilà, c'est ça, donc j'ai simplifié. Voilà, alors, parler de la Première Guerre mondiale. En fait, la Première Guerre mondiale, la Der des Der, elle a inspiré un nombre assez considérable de romans, de bandes dessinées, de pièces de théâtre, voire d'œuvres poétiques. Et finalement, si on revient un petit peu au début du siècle, eh bien, dans les années 1920 et 1930, juste évidemment après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le sujet principal des œuvres de fiction en rapport avec la Première Guerre était essentiellement les conséquences psychologiques et sociales donc, du conflit. Et aujourd'hui encore, de nombreux romanciers s'inspirent de cette période. Alors peut-être que je dirais que la raréfaction finalement des conflits armés, enfin des grands conflits armés dans le monde occidental depuis la Seconde Guerre mondiale, sont une explication au succès que rencontrent en fait ces sujets. Voilà, et on va le voir évidemment avec nos écrivaines. Et je vais passer la parole à donc Sylène Edgar qui va peut-être nous faire une présentation un petit peu plus précise que ces généralités que je viens de vous donner.
Alors 14-14, c'est un texte qui est paru il y a 4 ans, en 2014. Voilà. Et en fait, ce qui est né de l'idée avec Paul, on souhaitait écrire ensemble. Voilà. Et lui, il a vécu à Laon et il avait très envie qu'on travaille sur cette période et qu'on n'essaye pas de redoubler des choses qui avaient été faites pour lesquels on ne sentait pas forcément la carrure, et d'aborder le quotidien des gens juste avant-guerre. Par le point de vue d'un jeune homme, Adrien, qui reçoit une carte de vœux pour souhaiter la bonne année. J'en avais trouvé une en vide-grenier, je m'étais dit, les pauvres gens qui s'envoyaient des vœux en 1914, ils ne se doutaient pas de ce qui allait se passer, et puis on est parti là-dessus, sur ces gens-là, pour essayer de parler de personnes qui n'allaient pas aller dans les tranchées, mais qui allaient subir de plein fouet la Première Guerre parce que leur village allait être détruit. Ou alors qu'ils allaient être occupés. Parce que c'est quelque chose qui avait beaucoup frappé Paul, le fait que quand il vivait à Laon et qu'il parlait de l'occupation, les gens lui demandaient, mais tu parles de la première occupation ou de la deuxième? Et c'est vrai que nous, on a grandi à La Rochelle avec Paul et quand on parle de l'occupation, nous, on pense forcément à la Seconde Guerre. Voilà. Et là-bas, les gens, ils en ont vécu deux, en fait.
Voilà, donc la question que je voulais vous poser à vous quatre, c'est pourquoi est-ce que vous êtes intéressés finalement par la Première Guerre mondiale? Quel intérêt de la mettre en scène aujourd'hui? Parce que moi, il me semble que la façon dont la Première Guerre mondiale est traitée aujourd'hui nous montre quand même peut-être une extrême modernité. Est-ce que, je veux dire, la guerre des tranchées peut finalement se rappeler à nous via la guerre dans le désert, des armées qui combattent l'État islamique, etc. Je ne sais pas s'il y a une résonance, et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce retour de la Première Guerre mondiale. Voilà, je voulais savoir pourquoi cet intérêt, d'après vous, et pourquoi vous êtes surtout intéressé par ça.
Alors moi, de par mon métier d'enseignante et de par la ville dans laquelle je vis, à Verdun, c'est vrai que la question de la Grande Guerre, elle est un petit peu... Elle est omniprésente, quoi. Mais c'est vrai que là, le conflit a eu lieu il y a 100 ans. Parler de la Grande Guerre aujourd'hui aux enfants, c'est aussi leur transmettre le devoir de mémoire. Et je trouve que quand on travaille avec eux sur l'éducation à la citoyenneté, de connaître ce qui s'est passé il y a 100 ans, de se projeter, d'arriver avec ces questions d'enfants, d'aller visiter les sites, d'être imprégné de cette histoire, c'est important parce que dans la construction des adultes qui sont en devenir, je trouve que c'est primordial. Bien souvent avec eux, on travaille sur cette petite phrase, on leur demande de faire refleurir l'espoir et on leur demande ce que ça fait résonner en eux, tout ça. Et c'est vrai qu'ils ont bien conscience qu'ils sont nés dans une société où il n'y avait pas de guerre. Enfin, moi, en tous les cas, je n'ai jamais vécu dans un pays en guerre. Le seul contact qu'on a avec la guerre, si on a un papa ou un oncle militaire, ce sera par ce biais-là, mais sinon c'est la radio, la télé, et quand on l'éteint, c'est fini, on peut passer à autre chose. Donc parler de la guerre, la grande guerre aujourd'hui à des enfants, ça permet aussi de leur faire prendre conscience qu'ils ont cette chance de vivre dans une société entre guillemets tranquille. Enfin, on leur dit aussi qu'il y a encore la guerre dans d'autres pays et on essaye aussi de réfléchir avec eux sur cette passation de flambeau. Ce sera vous, les adultes de demain. En abordant cette question, qu'est-ce que vous avez envie, quoi, pour plus tard?
Alors moi, je suis née en 1949 et dans ma famille, la guerre, on n'en parlait plus. On n'en parlait pas parce qu'elle était encore très récente et c'était la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai mis très longtemps avant d'apprendre qu'en fait, mon grand-père paternel avait fait la Première Guerre mondiale. Quand j'ai découvert ça, ça m'a semblé vraiment étrange que je n'ai pas été informée de ces détails-là. Lui, il avait été vraiment au combat, il était au chemin des dames, etc. Il avait été gazé. Donc, lui, il refusait absolument d'en parler. Et le blackout sur lequel il avait mis sur sa famille, sur ses deux fils, mon père était le plus jeune de ses deux fils, s'est transmis à travers les générations, en fait. Et je ne l'ai appris que très tard. Et j'ai trouvé vraiment dommage d'avoir échappé à cette information en direct, si j'ose dire. Et la première fois où je l'ai interrogé, mon grand-père m'a dit « je ne parle pas de ça ». J'ai dit « oui, mais moi, je voudrais savoir certaines choses ». Il m'a dit des bribes, vraiment des petites bribes de son passé dans les tranchées, etc. Et quelque part, ça m'a manqué. J'avais l'impression que j'avais un manque, que j'avais une histoire familiale à laquelle je n'avais pas pu participer, que je n'avais pas pu m'approprier parce qu'il y avait ce blackout total sur les guerres. Et donc, j'ai mis très longtemps aussi à apprendre que moi, en tant que bébé, j'avais eu une carte de rationnement. Ma mère m'avait dit, tu sais, en 49, il y avait encore du rationnement. Toi, par exemple, j'avais une carte de rationnement pour toi. Ça m'a vraiment surprise. Je n'y croyais pas vraiment. Et quand j'ai trié tous les documents de mes parents, je l'ai retrouvée, cette carte de rationnement. Donc, il y avait bien du rationnement encore en 49. Et puis, toutes ces choses-là ont fait que je me suis interrogée à l'âge adulte sur la vision historique qu'on avait pu me donner dans l'enseignement aussi. Alors, c'est vrai qu'on n'abordait pas énormément. Quand moi, j'étais élève au collège, on n'abordait pas encore énormément ces périodes-là. Les professeurs nous évoquaient ces choses-là, mais il y avait un grand silence autour de tous ces événements-là. On avait l'impression que ça remuait encore tellement de choses chez les adultes qu'ils n'avaient pas obligatoirement envie d'en parler aux enfants. Ils avaient peur, sans doute, de mal le faire, je pense. Et donc, moi, en fait, le dernier bleuet est né de Guédelon. C'est-à-dire que j'ai eu envie de me pencher sur le passé de la région de la Puisaye avec le château de Guédelon. Et je me suis plongée dans le Moyen-Âge. Et c'est à la suite d'une table ronde ici aux Imaginales que j'ai fait la connaissance d'Isabelle et de son mari Jérémy. Et c'est parce que je m'étais intéressée en fait à l'histoire. Il faut dire que je suis mariée avec un prof d'histoire aussi, ça aide quand même pour la documentation à domicile. Et je m'étais intéressée à l'histoire du Moyen-Âge. Et là, je me suis dit, cette histoire-là, elle est aussi à moi. Enfin, je veux dire, c'est une histoire familiale pour moi. Et donc, c'est ce qui m'a intéressée aussi à me pencher sur la Première Guerre mondiale à travers ce roman.
Est-ce qu'il marche ou... Oui, il marche. Alors, de mon côté, je m'intéresse à l'histoire des femmes depuis très longtemps, enfin, depuis 2010. Plutôt les femmes dans l'art, mais les femmes en général, et donc les femmes pendant la guerre. En fait, j'ai simplement voulu raconter au départ l'histoire d'une... Enfin, ça n'avait rien à voir, une histoire qui était liée au tango. Donc, ça se passait en 1917. On était censé suivre la fuite d'une jeune Parisienne. Donc, pendant la Première Guerre mondiale et qui se retrouvait en Argentine. Et j'ai commencé évidemment à me plonger plus avant dans l'histoire des femmes pendant la guerre, donc les deux guerres, mais pendant la Première Guerre mondiale, et la manière dont les femmes ont quand même géré l'arrière, puisque c'était elles qui fabriquaient les armes, c'était elles qu'on trouvait au champ, c'était elles qui conduisaient, qui faisaient tous les métiers qui jusqu'alors étaient dévolus aux hommes. Même si dès 1917, quand on lit les journaux et quand on regarde aussi les chansons de Poilu, on se rend compte qu'on voulait surtout les renvoyer à leur fourneau. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était voilà la manière dont il y a une première tentative d'émancipation des femmes en France. Ça a été aussi donc toute cette vie à l'arrière. Je me suis pas beaucoup intéressée, même si dans mon roman il y a une correspondance avec des soldats sur le front. Je veux dire qu'il y a plein de gens qui l'ont fait beaucoup mieux que moi, et il y a notamment une bande dessinée qui met en scène les lettres des poilus. Donc voilà. Et vous parliez tout à l'heure de modernité. Donc je me suis plongée aussi dans la base de données Gallica sur les journaux de guerre. Effectivement, c'est à partir de ce moment-là pour moi que naissent vraiment tout ce qui est manipulation médiatique, puisque notamment en 14, on était en train de perdre. Les journaux avaient comme consigne surtout de rien dire, pas affoler les gens. Donc, c'était tout va bien. On disait, les soldats allemands, ils ont tellement rien à manger qu'on leur donne des tartines de confiture pour les faire prisonniers. Et c'est pas une blague, hein, c'est des trucs qu'on trouve dans les journaux. Donc voilà, c'est vraiment toute cette manipulation médiatique, cette modernité, ces espèces de vie, de tranches de vie qui m'ont intéressée. Après, il y a un autre aspect que j'ai pas du tout. J'ai envie de dire deux autres aspects que j'ai pas eu le temps vraiment d'aborder durant la rédaction de ce roman. Donc, c'est le statut des animaux pendant la guerre, et l'autre qui était le statut des femmes résistantes espionnes, puisque il y en a eu un nombre assez considérable, notamment parmi les institutrices, et qu'on n'en parle quasiment jamais. L'image de la femme pendant la guerre, ce qu'on retient en général, c'est les anges blancs, hein, ce sont les infirmières, ou les midinettes, qui sont des ouvrières qui mangeaient des oranges pendant que les poilus, eux, mouraient sur le front. Alors que c'est des choses qui sont complètement construites. Voilà.
En t'écoutant, j'ai deux choses pour nourrir ce que tu dis. Moi, sur le fait d'écrire, il y a eu beaucoup de choses, en effet, sur la guerre de 14. Et il y en a tellement à dire que, de toute façon, je pense qu'il y en aura encore largement d'autres. Nous, des fois, on nous demande à Paul et moi pourquoi on n'a pas mis des filles dans 14-14 au lieu de deux garçons. Parce qu'on s'est dit, OK, si on veut faire un roman sur les filles, il faut qu'on travaille bien différemment parce que c'est une toute autre question. Donc, nous, ce n'était pas notre propos. Et du coup, avec le livre de Charlotte, voilà, il y a d'autres choses qui apparaissent. Alors, j'ai pas encore lu le vote, mais je suis persuadée que c'est un ensemble de choses, que c'est au contraire extrêmement important, intéressant qu'on ait toute cette variété-là. C'est pas, voilà, il y a un roman sur 14-18. Ça ne peut pas se réduire. Et en plus, les choses changent, notre public change. Et en termes de réception, c'est important qu'on leur apporte ces choses-là. Et alors juste une petite chose, parce que moi ça m'a vraiment motivée pour l'écriture, tu parlais de la manipulation médiatique, j'ai été très frappée parce qu'on nous dit souvent que les gens ils se doutaient pas avant-guerre, qu'ils ont été très surpris, d'une part que ça commence comme ça, qu'ils étaient persuadés que ça durerait pas longtemps et tout ça, c'est de la manipulation dans un journal qui date du 22 avril 1914, donc avant-guerre, un journal qui soutenait Jaurès, il est décrit exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on va les envoyer sans doute cet été, et puis on va leur dire qu'ils seront rentrés à Noël, et puis ce ne sera pas vrai, et ça va durer des mois, peut-être des années, et ça décrit dès avril 1914 ce qui s'est passé. Donc les gens le savaient déjà, et c'est une manipulation médiatique à l'époque et une manipulation historique de faire croire ça aux jeunes gens d'aujourd'hui. Et c'était important de leur dire que c'était faux, ça, quand on leur apprend et quand on leur reparle à l'occasion du centenaire.
Et les manipulations médiatiques continuent de toute façon, quoi. Enfin,
Et concernant la guerre, je crois que l'intérêt de la première guerre, peut-être, c'est justement, c'est la première fois. En fait, il y a eu beaucoup de premières fois dans cette première guerre. D'abord, c'est la première fois qu'il y a eu vraiment manipulation, justement, des populations avec la radio, avec la presse. Ensuite, c'est la première fois, effectivement, qu'on a eu vraiment une mort en masse. C'est-à-dire qu'on considérait les soldats. Alors, ça a commencé évidemment au XIXe siècle. Vous voyez, on regarde un petit peu l'histoire de la guerre, avec la guerre, les guerres par exemple napoléoniennes, où il y avait des groupes de soldats, mais pas à l'échelle de la première guerre. Ensuite, ça a été véritablement un laboratoire d'expérimentation militaire, puisque c'était quand même la première fois qu'on créait ces tranchées, qu'on essayait d'avancer. Il y a eu beaucoup d'expérimentations par rapport aux obus, par rapport au gaz moutarde. C'était la première fois qu'on utilisait, voyez, des armes chimiques, et vraiment dans l'imaginaire de la guerre. Et d'ailleurs, cette première guerre sera également à l'origine de la débâcle en 1940, puisque dès 1925, le général de Gaulle, qui était alors un jeune militaire, préconisait de quitter ce modèle des tranchées, qui était un modèle totalement dépassé pour lui, un modèle de boucherie en masse qui ne servait à rien. Et enfin, quatrième point, je crois aussi que cette première guerre mondiale, ça a été aussi une façon d'asseoir un pouvoir très autoritaire sur les jeunes gens, alors qu'ils savaient très bien qu'ils les envoyaient à une véritable boucherie. Et le fait, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a énormément choquée, c'est évidemment tous les jeunes qui ont refusé, enfin qui ont déserté et qui ont été non seulement qui évidemment ont été fusillés par leur propre camp, mais aujourd'hui encore, l'État peine à faire reconnaître ces gens comme, enfin ces personnes, comme des gens qui n'étaient pas traîtres à leur patrie. C'est-à-dire que 100 ans après, on est encore, voyez, sur cette idée effectivement que l'État veut imprimer sa marque sur des populations. C'est-à-dire qu'en fait, nous ne sommes rien, mis à part finalement de la chair à canon. Hein, c'est ça, c'est l'idée de cette chair à canon.
Dont tu parlais aussi, mais qui a été totalement tué, c'est effectivement, tu parlais d'occupation, et il y a aussi de la déportation. Dans le côté expérimental, pendant la Première Guerre mondiale, on déportait des Français et des Françaises en Allemagne. On violait aussi beaucoup.
C'est quelque chose, pour rebondir sur ce que tu dis, hein, sur le fait que 100 ans après, ça pose encore question, et je pense que c'est pas anodin d'écrire sur 14-18 aujourd'hui, c'est pas juste parce que c'est le centenaire et c'est une bonne occasion, etc., parce qu'il y a cet aspect-là de les y intéresser, mais il y a aussi, et encore, un combat à mener, il y a aussi un engagement hein, à parler de la guerre, à parler du conflit, un engagement pacifiste, et le fait de rétablir un certain nombre de vérités. Moi, petite, mes parents, ils m'ont fait faire la tournée de France pour trouver les monuments aux morts antimilitaristes. On n'a pas fait un grand tour parce qu'il y en a très peu. Mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, à Gensiou, quand les militaires ils défilent le 11 novembre, ils doivent détourner la tête pour ne pas regarder le monument aux morts qui dit « mort à la guerre ». Bon, à la guerre, enfin, j'espère bien que si on fait le centenaire, c'est pour qu'il n'y en ait plus. Et je trouve ça dingue qu'encore aujourd'hui, ce soit un tabou de dire que bah ouais, on n'en veut plus, en fait.
Oui. Alors justement, je pense que la littérature, elle a vraiment un rôle important à jouer par rapport justement à cette dénonciation ou à cette mise en scène finalement de la réalité. Est-ce que vous avez lu un roman particulier qui vous a touché sur la guerre de 14 et qui vous a peut-être amené à cette période, à ce sujet moi je pense par exemple au roman « À l'Ouest, rien de nouveau » de Rich Maria Remarque où Johnny s'en va en guerre. Je ne sais pas si vous connaissez... connaît évidemment ce roman qui a donné naissance à un film assez extraordinaire donc de John Turnbull. Voilà, bon, c'est des exemples. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché en particulier sur la Première Guerre?
Alors pour moi, l'histoire, elle est un peu inversée. En fait, j'ai pas forcément eu envie d'écrire sur la Première Guerre mondiale parce que j'avais lu des ouvrages qui me passionnaient. C'est parce que je voulais sensibiliser les jeunes. C'est à cette occasion-là que j'ai rencontré Daniel et c'est à cette occasion-là aussi qu'on s'est lancé le défi d'écrire ce roman-là. Et c'est du coup en voulant écrire ce roman-là que je me suis mise à acheter plein de livres pour me nourrir. Et justement, je suis contente d'être avec toi, Silène, parce que c'est l'un des premiers romans que j'ai acheté et qui m'a beaucoup touchée. Voilà.
Oui, moi, c'est pareil. Hein, en perspective d'écrire ce livre avec Isabelle, je suis plongée dans celui de Silène et j'ai vraiment adoré ce livre. Et je me suis dit, bon, ben voilà, on a un beau défi à relever. On ne va pas faire la même chose parce que c'est autre chose qu'on avait l'intention de faire avec Isabelle, mais je pense qu'ils sont bien complémentaires finalement. Alors parce que moi, je sais que lorsque Isabelle m'a parlé de l'hypothèse d'écrire un roman sur la guerre de 14-18, j'ai dit, oh là, attention. J'ai dit, écrire un roman jeunesse sur la guerre en tant que telle. Je dis, il n'y avait pas d'enfants. Hein. Je dis, les enfants, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas au front. Sur le modèle de Guédelon, je ne me voyais pas du tout emmener des enfants dans le passé, des ados, enfin, jeunes, petits ados, au milieu des champs de bataille. C'était une hérésie historique. Hein. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, ah, tu ne peux absolument pas envisager de faire ça. Il m'a dit ça serait vraiment une erreur telle que le roman n'aurait plus du tout de véracité historique. Les enfants, ils n'étaient pas au front, point barre. Ils étaient derrière. On les avait mis à l'abri. C'est d'ailleurs pour ça que les personnages du dernier bleuet, au sens propre du terme, arrivent ou avant ou après la bataille. C'est-à-dire qu'on s'est débrouillé pour ne jamais les confronter directement au combat. Il y a un moment donné quand même où les obus ne tombent pas très loin. Hein. On voulait tout de même que nos jeunes lecteurs se rendent compte que l'enfer de la mitraille de 14-18 était là et que je ne sais pas combien de milliers, peut-être bien des millions d'obus qui sont tombés sur cette région, et ça faisait du bruit.
Non, juste un chiffre, c'est parce que j'ai visité le chemin des Dames et dans la Marne, quand les paysans font les labours, encore aujourd'hui, oui. Il y a évidemment des obus hein, qui ressortent. Donc c'était 36 000 obus la minute.
36 000 la minute, oui c'est ça. Oui, c'est hallucinant. Enfin, quand on y pense, c'est quelque chose de complètement fou. Je comprends que quelque part, quand je disais tout à l'heure que mon grand-père ne voulait rien me raconter, comment est-ce qu'on peut envisager de transmettre des informations à une adolescente qui vous pose des questions sur une telle réalité. Enfin, c'est tellement au-delà de l'imaginable que, en me renseignant justement un petit peu aussi, en visitant, j'étais allée d'ailleurs bien avant de rencontrer Isabelle visiter toute cette région, je me rendais compte que c'était difficile à évoquer. Oralement, en tout cas. Et passer par l'écrit est certainement un bon moyen, parce qu'on a pris le temps de se poser, de bien réfléchir à la structure du livre. Et le voyage que font nos personnages est en quelque sorte authentique. C'est Isabelle qui a fourni toute la documentation historique. Donc moi, je me suis calée en fait, au niveau de la construction du synopsis, parce que... C'était son premier roman, donc je l'ai éduqué à ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'on a fait une construction très précise du synopsis, chapitre par chapitre, etc. Et la construction suit donc... Alors vas-y, enchaîne sur ton régiment.
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon arrière-grand-père a fait la Première Guerre mondiale et qu'il est passé avec son régiment d'infanterie sur à peu près tous les secteurs du champ de bataille. Et il n'avait pas fait Verdun. Donc, c'est lui dont je me suis inspirée pour le personnage donc qui incarne le soldat. Et voilà, du coup, maintenant, il a fait Verdun aussi. Voilà. Et du coup, il était évident, comme tu le disais, Daniel, que les enfants ne pouvaient pas être sur le champ de bataille. Hein, ce n'était pas ça notre intention. Nous, ce qu'on voulait, c'était des enfants qui partent à la rencontre de l'histoire avec un grand H, avec une mission à accomplir, une quête familiale, ce qui donnait l'occasion de s'adresser à des enfants de l'âge de nos lecteurs en leur apportant des éléments qu'ils sont en mesure de comprendre, tels que comment on vivait à l'époque, à quoi ça ressemblait, comment c'était. Quoi. Et c'est aussi pour ça qu'ils arrivent toujours soit un peu avant, soit un peu après, mais on ne voulait pas du tout, parce qu'il y en a du coup. Tout à l'heure, on parlait des romans que j'ai lus, vous avez dû en lire aussi. Il y a des gens qui n'hésitent pas à faire arriver des jeunes ados sur le champ de bataille. On a voulu coller à la réalité. Et du coup, on s'est mis à suivre un régiment d'infanterie qui a vraiment existé, le 165e. Et on les a suivis, donc on a étudié
Ils ont fait un parcours impressionnant.
Voilà, donc on a suivi le carnet de route.
Sur les 4 années de guerre, en fait. Et donc le découpage chapitre par chapitre du roman correspond aux différentes étapes dans le conflit que ce régiment-là a vécu. En fait.
J'étais en train de réfléchir, justement, en fait... Le seul nom qui me vient, en fait, c'est Ambrose Bierce, mais qui n'a pas écrit sur la Première Guerre mondiale. Hein, moi, je n'ai pas beaucoup lu, je n'ai pas lu de romans à part à l'Ouest, rien de nouveau, avant d'écrire Là où tombent les anges. En revanche, j'ai lu énormément d'essais. Et je me suis, durant l'écriture, imprégnée de la littérature de l'époque. Donc ça va de classiques comme les écrits de Colette à Marcel Proust, des choses un peu plus qui peuvent sembler plus éloignées, mais qui sont contemporaines, qui est du Jack London. Je me suis pas mal intéressée aux femmes poètes, mais pareil, qui ont plus écrit donc comme René Vivien avant la guerre. Ce qui m'a intéressé, c'était vraiment de m'imprégner d'une époque. Et après, j'ai fait mon boulot de ce que je fais quand j'écris un roman historique, c'est-à-dire que je me documente, je m'imprègne, et après j'écris une fiction. Voilà. Donc, je crois que ça résume assez brièvement, mais voilà.
D'accord. Mais merci Charlotte. Alors.
Oui, d'accord. Ouais, c'est bon, ça marche. Sur les textes qui ont pu m'inspirer, me motiver. Alors, comme Charlotte, j'ai lu beaucoup de choses, surtout sur d'écrivains qui ont écrit entre deux guerres, parce que j'ai fait dans ma formation universitaire un travail sur les surréalistes belges. Donc, voir comment eux, ils avaient écrit après-guerre, du coup, comment ils étaient motivés par ça. J'ai eu l'occasion de voir dans Tolkien une relecture des tranchées. Ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a beaucoup posé question comment les écrivains ont pu de différentes manières, et les artistes, Otto Dix ou Max Ernst, ont pu après nourrir enfin, nourrir leur imaginaire, non, subir et essayer de retraduire ça comme ils ont pu.
Et, une sorte de catharsis. Hein.
Oui. Et après, il y a deux livres très précis qui me viennent à l'idée. Soldat Peaceful de Michael Morpurgo, parce que Morpurgo, c'est quand même vraiment un très grand auteur jeunesse sur la guerre de 14-18. Et dans Soldat Peaceful, il nous raconte l'histoire de Tomen, qui part aux tranchées, un Britannique, et dont le frère va être fusillé. Et du coup, il y a tout un rebours sur comment il est arrivé là, comment des petites gens ont été asservis par le seigneur du coin, comment ils ont été envoyés à la guerre, comment ils ont été réduits à des conditions abominables et que la moindre rébellion les a amenés à être fusillés, dans le cas du grand frère de Tomen. Donc c'était important. Et dans Un long dimanche de fiançailles de Jacques Rizot, De suivre Mathilde, de suivre cette femme qui elle-même porte dans sa chair une difficulté à être et qui va chercher son amoureux, qui va mener cette enquête, qui va revenir sur plein d'éléments et qui permet de voir énormément de personnages, énormément de femmes, énormément de situations et puis différents hommes. Comme ce qui me plaît beaucoup dans ce livre-là, c'est le fait qu'il ne réduit pas Jacques Rizot du tout les personnages à un. Ils sont très variés, ils apportent tous des choses très différentes. Et à travers l'enquête de Mathilde, voilà, on prend un peu la mesure de tout ça, je trouve.
Justement, moi j'ai eu l'impression que en fait, cette Première Guerre mondiale, elle a quasiment créé un imaginaire à part entière. Alors non seulement à travers évidemment une littérature extrêmement fournie, mais aussi à travers bien sûr hein, des films. Hein, on a certains films mythiques. Ça, bien sûr, la version cinématographique donc de Jeunet sur Un long dimanche de fiançailles, qui est quand même, je pense, un des films peut-être les plus connus, les plus appréciés, qui ont eu finalement du retentissement sur les spectateurs. Il y a aussi, alors du coup, là, en discutant avec vous, je ne sais pas si vous connaissez la bande dessinée, on va revenir un peu à l'imaginaire, mais qui s'appelle La Brigade Chimérique, qui vient en fait d'un roman de Rony Aîné qui s'appelle L'Homme de Givreuse, et en fait, victime d'expérimentation d'armes chimiques dans les tranchées, eh bien, L'Homme de Givreuse se scinde en deux, donc en deux hommes, et donc ça va donner aussi naissance dans cette bande dessinée donc de Serge Lehmann, La Brigade Chimérique, à toute une galerie donc de personnages, et tout se situe donc pendant la Première Guerre mondiale, avec mise en scène quand même de Marie Curie. Voilà, et ça c'est important parce que ça montre bien aussi évidemment l'importance des femmes dans cet imaginaire là. Donc voilà, ma question, c'est, d'après vous, est-ce que cette guerre a créer un imaginaire véritablement qu'on va retrouver en littérature, au cinéma? Est-ce qu'il y a des images qui ressortent fortes de cet imaginaire, qui peuvent après influencer nos lecteurs?
Alors je ne suis pas assez spécialisée, j'aurais du mal à avoir une réponse très complète. Je crois que il y a énormément de choses qui ont été faites et que les tranchées, les batailles de tranchées restent quand même vraiment l'image, la façon dont très concrètement les soldats sortent de la tranchée, vont affronter les autres dans une espèce de choc comme ça, ou alors des fois dans les pauses, ça a beaucoup nourri aussi l'imaginaire, les moments où ils attendent, voire toujours chez Morpurgo en trêve de Noël, où ils sortent, ils font un match de foot parce que c'est Noël, et puis après ils retournent dans la tranchée et le lendemain ils se remettent sur la gueule. Ça, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on va retrouver du coup en fantasy dans certaines batailles, ou cette boucherie, cette tuerie de masse, elle a, à mon avis, marqué toutes les scènes de grosses batailles qui ont pu suivre. S'il y a quelque chose dont je pense que ça a marqué l'imaginaire. Il y a sans doute plein d'autres choses, mais après, je n'ai pas assez d'expertise. Oui, mais c'est...
Isabelle ? Non ? Pas de...
Moi, par rapport à l'imaginaire, je ne sais pas... Je pense que, enfin, en tout cas, ce qu'on a fait dans le dernier bleuet, c'est que j'ai pas l'impression qu'on se soit nourri de. On est juste resté à la réalité. Enfin, je crois que pour moi, elle est déjà suffisamment parlante. Elle est déjà suffisamment extraordinaire, choquante. Et quand on se place d'un point de vue d'enfant, je pense que ce qu'ils auraient pu vivre à l'époque, c'était déjà suffisamment fort, quoi. On ne s'est pas spécialement nourri de ce qui avait été fait autour, en fait. Enfin, on en est resté à l'étude de ce qui s'était vraiment passé. On s'est rendu sur les lieux, on a questionné les gens, on a lu énormément de livres qui parlaient de l'enfance pendant la Première Guerre mondiale. Comment vivaient déjà les enfants? Comment vivaient-ils ce conflit alors qu'ils y étaient eux-mêmes? Ils y étaient, quoi, vraiment eux-mêmes. On s'est vraiment basé sur la réalité, quoi. On n'a pas essayé d'amener des effets supplémentaires, quoi.
Non, mais je pense que le sens de ma question, c'était finalement, il y a eu tellement une littérature et de films justement sur le sujet qu'on a parfois on a des images dans la tête. Moi, j'ai toujours des images, par exemple, du film de Kubrick sur La Grande Illusion, par exemple. Donc forcément, je me dis, voilà, on n'a pas vécu, bien sûr, c'est trop éloigné dans le temps. Et donc c'est dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on a des images dans la tête qui sont finalement transmises par la fiction et qui ont cet imaginaire-là et on peut s'en servir ou pas, bien sûr.
Oui, nous, on ne s'en est pas servi, on est vraiment resté sur ce qui pouvait se passer à l'époque, tout simplement, en fait.
Oui, ce sont des enfants de maintenant qui sont projetés dans le passé. Donc, ce qu'on a voulu montrer, c'était le choc que ça peut être pour eux, simplement déjà de voir la vie quotidienne. Ils rencontrent un adolescent de leur âge. Déjà, on a gardé un petit côté patoisant, si j'ose dire, pour bien montrer que des adolescents de maintenant projetés à cette époque-là ne comprennent pas obligatoirement tous les mots du vocabulaire. Et puis, en plus... On les a confrontés à une réalité extrêmement tangible de la vie. Par exemple, ils ont froid, ils n'ont pas grand-chose pour s'habiller, mais ils sont quand même obligés, pour se fondre dans la population, de s'habiller comme à l'époque. Alors, il ne faut pas se faire remarquer avec leurs baskets Nike. Hein. Alors donc, déjà s'habiller, manger aussi. Le petit ado de l'époque, Léon, leur propose des grandes tranches de pain bis couvertes de Saint-Doux. Les petits gamins de 2018, ça les surprend un peu, quoi. Mais ils ont faim. Et c'est la guerre. Et on mange ça. Et finalement, ça réchauffe et ça fait du bien. Donc, ils sont confrontés à une réalité de la guerre avec le prisme de leur regard d'enfant d'aujourd'hui. Et ça, j'avais déjà eu cette expérience-là en écrivant Les Guédelons avec les gamins de maintenant projetés au XIIIe siècle. Et à chaque fois que je disais à Isabelle, est-ce qu'on peut leur faire faire ça? Et elle disait, oui, elle apportait la caution historique en disant, oui, voilà, les magasins de Verdun, par exemple, il y avait ceci, il y avait cela, à un moment donné, ils regardent les vitrines, ils sont surpris par. C'est le but qu'on recherche dans le livre, c'est que nos petits lecteurs se rendent compte que d'un seul coup, c'était la guerre, mais aussi on jouait, aussi on faisait des choses. Enfin bon, il y avait des enfants restent des enfants quelque part. Et puis eux, ils se sont investis d'une mission, c'est de rendre son bleuet à leur arrière-grand-père. Et cette quête est à la fois un voyage et en plus une quête initiatique, si j'ose dire, de découverte de leur passé. C'est ce que je disais au début. C'est un petit peu la boucle est bouclée avec ce que je disais sur le fait que moi, il y avait un passé familial à rechercher, en fait.
Charlotte ?
Moi, j'ai plus le côté, en fait, je reste sur mes histoires de propagande et d'images qui ont été transmises par les gouvernements successifs, par l'éducation du bon soldat poilu, gentil, qui rentre chez lui, tout ce qu'il y a eu à l'époque, même les bandes dessinées qu'on pouvait trouver, et puis qui ont perduré. Ça m'a probablement inspirée sur ce décalage entre la réalité qui est affreuse, comme tu le disais, la réalité du poilu, qui est de toute façon, le mec, il a pas le choix, il a le choix entre se faire tuer par les Allemands et se faire fusiller parce qu'il déserte. Donc il y avait ça, et puis l'image qui était véhiculée en fait de ces poilus par les journaux, le fait que dans la réalité les lettres étaient archi censurées, donc ils pouvaient difficilement écrire ce qui se passait vraiment là-bas. Le fait qu'il y ait eu un décalage total aussi entre ces images-là et la vérité aussi du point de vue de ceux qui restaient. Moi, c'est plus ce genre de choses qui m'ont intéressée. Et puis, parce que je travaille sur les femmes, ce décalage de ces espèces de constructions féminines qui ont servi en fait à reconstruire une image de la femme qui est le côté maternel, angélique. Après, quand on regarde dans les années 30 les manuels de savoir-vivre et bonne conduite, on a la mère de famille sourit et reste derrière et ce genre de choses. Il faut savoir que pendant la Première Guerre, on se posait évidemment la question de l'avortement, donc je crois que c'est jusqu'en 1915, ça, on pouvait avorter surtout si on avait été violé par un soldat allemand. À partir de 1915, ça commence à changer. En 1917, globalement, on vous dit « vous gardez votre bébé, comme ça il va naître à moitié coupable et ça fait de la chair à canon pour la suite ». C'est vraiment ça que je trouve hyper intéressant, c'est la manière dont la société est forgée par la guerre, par les médias de l'époque et par une politique qui est absolument infecte. Quand on regarde un petit peu, on s'intéresse aux chansons de poilus. Donc les chansons de poilus à partir de 1917 disent aux femmes, en gros votre mec rentre de la guerre, vous êtes gentil, vous écartez les cuisses même si vous n'êtes pas d'accord, si vous trompez, c'est pas grave, on prépare les soldats de l'avenir. Donc il y a quelque chose qui est extrêmement brutal aussi de ce côté-là. Et du côté des poilus, on leur dit faites gaffe parce que vos nanas vont vous prendre votre travail. Il y a vraiment cette question-là qui se pose. C'est ça, moi, qui m'a vraiment plus intéressée.
Oui, puis c'était une réalité, puisque il y a eu tellement une hémorragie démographique et tellement de morts de jeunes hommes actifs pendant ces 4 ans. Que c'est là que les femmes, finalement, ont commencé à rentrer dans le monde du travail, un monde du travail qui était réservé aux hommes, et ça a été véritablement le début de l'émancipation.
Ça a été très, très vite retombé. À partir de 1920, l'avortement est puni, et avec Pétain, on est guillotiné. Hein. Donc ça a été un truc, c'est plus une première tentative avortée. Je sais, je fais de l'humour pourri, mais...
Mais je crois qu'il y a quand même quelque chose d'important. Et là, on n'est pas dans la naissance de quelque chose par rapport à l'imaginaire. Mais politiquement, au début de la guerre, partir à la guerre, il y avait quelque chose de normal, défendre la patrie. Ça faisait quand même déjà des années qu'on était dans un discours patriote de...
Complètement, personne n'a digéré 70 de toute façon.
Voilà, donc. Et du coup, c'était normal d'aller à la guerre, ils allaient à la guerre, c'est normal de se sacrifier et tout. Et puis, il se passe quelque chose, enfin deux choses, il me semble. Déjà, la durée du conflit, le fait que les gens, malgré la censure, ils, au bout d'un moment, ils ouvrent les yeux sur ce que c'est. Ils sortent de cette espèce de patriotisme qui était de l'ordre de la norme. C'est normal d'aller se battre parce que des fois, les enfants d'aujourd'hui, ils disent « mais moi, j'y serais pas allée ». Ou moi je serais partie et c'est très neuf, hein, c'est quelque chose à l'époque on pensait pas du tout ça, et puis c'est apparu il me semble d'autant plus à cette époque là et puis en 17, le fait que du côté des Russes ils disent ok mais nous on arrête quoi, nous on arrête, on a fait la révolution et on continuera pas parce que maintenant qu'on s'est débarrassé du tsar, on va arrêter les conneries, on va arrêter d'aller se battre pour une patrie qu'on a repris pour nous en fait. Et je crois qu'il y a quelque chose qui après a mis du temps, énormément de temps en plus, avec la crise de l'entre-deux-guerres, avec l'arrivée du fascisme, mais qui était aussi, je pense, une façon d'écraser ce début de conscience, de dire on ne veut pas faire la guerre, on ne veut plus faire ça, alors qu'avant, c'était évident qu'il fallait défendre la patrie et mourir s'il fallait.
Ah oui, je ne suis pas du tout certaine qu'aujourd'hui, s'il y avait une mobilisation générale, comme il y a pu en avoir une en 14 et puis en 39. Déjà, en 39, ça a été plus compliqué. Je crois qu'aujourd'hui, ça ne pourrait plus fonctionner du tout. Mais les choses ont mis quasiment un siècle à évoluer, bien sûr.
Et puis, dans le côté aussi modernité de cette guerre, ou en tout cas en parallèle avec le monde contemporain, Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait des recherches et que j'ai écrit là-dessus, c'est mais qu'est-ce qu'ils étaient racistes ? Et sauf que le racisme, c'est pas où ces horribles migrants qui viennent de pays du Sud et qui nous envahissent, mais c'est les Belges. Et c'est l'Alsace-Lorraine aussi qui, mais ils vont nous piquer notre boulot, et parce que c'est pas des traîtres. Et on retrouve exactement les mêmes mécanismes, exactement la même chose. Et je trouve que c'est assez flippant. C'est assez flippant de voir les mêmes réactions à 100 ans d'intervalle, quoi. Et de toute façon, quasiment la même utilisation par les politiques.
Alors, une dernière petite question, et après, éventuellement, on laissera la parole à notre public s'ils ont des questions à vous poser. Moi, je voudrais maintenant qu'on se place du côté des lecteurs, c'est-à-dire quelles sont les réactions que vous avez eues du côté peut-être des jeunes lecteurs, des lecteurs adultes. Comment ont-ils réagi ? Est-ce que ce sont des livres qui les intéressent vraiment sur la guerre de 14-18 ? Voilà, qu'est-ce que vous avez eu comme réaction derrière ?
Sur 14-14, avec Paul, ça a été assez incroyable. On pensait vraiment pas que ce livre-là, il aurait ce destin-là. Je te remercie, Daniel, parce que quand on admire quelqu'un, recevoir un petit message qui dit « j'ai lu ton bouquin, j'ai aimé », ça fait un sacré choc, hein, on l'oublie pas. Voilà, le livre marche depuis 4 ans. Il a été traduit dans plusieurs pays. Les enfants le lisent encore. Donc, ça leur plaît énormément. On ne pensait pas que ça leur plairait autant. On ne pensait pas qu'ils s'y intéresseraient avec autant de force. Et je pense, pour le moment le plus fort, vraiment le incroyable, c'est en novembre avec Paul, on est allé en Lettonie, un des pays où 14-14 a été traduit. Nous, voilà, la Lettonie, c'est loin, c'est un petit pays, il n'y a même pas 2 millions d'habitants. Comment ça peut leur plaire ? Certes, c'est l'Europe, mais enfin, c'est loin. Ils ont vécu la guerre, mais pas comme nous. Enfin, différence de culture et tout. Et on arrive là-bas et en fait, ça leur a plu parce que ça les a touchés, parce qu'ils ont une histoire encore plus pourrie que la nôtre et que ça a eu du sens pour eux. Ça a eu vraiment du sens pour eux parce qu'il y a cette amitié, parce que il y a ce discours sur la guerre aussi qu'ils ont subi. Et du coup, je rêve d'une chose maintenant, c'est d'aller voir des petits Coréens, des petits Taïwanais pour qu'ils m'expliquent pourquoi eux, ils ont aimé, parce que ça reste toujours mystérieux. Et tant mieux quoi. Moi, ça me dépasse, je sais pas, je comprends pas bien pourquoi, mais en tout cas, c'est une évidence que ça les intéresse et qu'il faut continuer à les nourrir, il faut continuer à leur faire des livres sur le sujet parce que ça les touche.
Oui, Daniel et Isabelle.
Alors nous, pour l'instant, on a un petit nombre de lecteurs puisque le roman est sorti cette semaine.
Oui, bien sûr.
Mais on a un petit échantillon test, du coup, quand même. Ce qui marque les enfants en lisant le roman, c'est de faire connaissance avec les modes de vie d'autrefois. C'est de se rendre compte qu'en 1913, bien avant que la guerre n'éclate, on évacue déjà les bouches inutiles. Plus loin, qu'on ne peut pas rentrer chez soi comme on veut, qu'il y a des laissés-passer, qu'il y a des civils qui sont bloqués chez eux sous les bombardements, qui sont pris en otage. Ce qu'ils attendent avec impatience, c'est que nos trois héros et le petit Léon arrivent enfin à rattraper René pour lui rendre sa fleur de bleuet. Ils se sentent touchés parce que du coup aussi, ce qu'ils attendent, il y a quelque chose avec lequel on a joué avec Daniel, c'est que tu disais tout à l'heure, Silène, quand on pose la question aux enfants de la guerre, ils nous disent « moi, j'y serais pas allée, je serais partie ». Et nos trois enfants, en fait, à chaque fois qu'ils vont croiser des soldats ou des civils, ils ont très, très envie de leur dire « barrez-vous, quoi ». Barrez-vous, parce que nous, on a vu dans nos livres d'histoire, on a vu des films documentaires, on ne nous le fait pas. Nous, on sait très bien ce qui va vous arriver. Donc, barrez-vous. Donc, en fait, il y a cette tension un peu quand même, parce qu'on sait que le lecteur a envie de leur dire. Donc, du coup, on le fait... Nos petits héros le pensent aussi et ils vont tenter de tendre des perches, en fait... Et ils se rendront compte qu'ils ne peuvent rien contre l'histoire et que voilà, les gens, les quelques personnes qu'ils ont eues sur leur parcours qui leur ont rendu des services et avec lesquels ils ont tissé des liens, voilà, ils vont essayer de les préserver un petit peu en laissant des petits messages ou en lançant comme ça 2-3 phrases. Bon, ils ont bien conscience qu'ils ne peuvent pas trop être pris au sérieux, mais ils essayent quand même, quoi.
D'accord, merci. Oui, Daniel.
Moi, il y a deux avis qui m'ont fait plaisir. Ça a plu au fils de notre éditeur. Ça, c'est bien. C'est déjà une bonne garantie. Et mon mari m'a dit, quand il a eu fini de lire le manuscrit, c'est bien. C'est sûr. Ça, il n'avait pas besoin de m'en dire plus, ça m'a suffi.
Et Charlotte ?
Alors, j'ai eu des réactions. Bon, j'ai un public là, qui va de 13 à 77 ou 78 ans. J'ai eu beaucoup de réactions très touchantes. Et j'en ai eu une ce matin d'un lecteur qui travaille avec des femmes battues et qui leur prête ce roman parce que ça les aide. Donc, la guerre de 14, en fait, est quand même beaucoup moins présente que dans vos romans. Moi, c'est vraiment c'est la vie de l'arrière et c'est surtout une histoire d'émancipation et c'est une histoire de femme. Donc, c'est beaucoup plus par rapport à ça que j'ai des réactions, notamment bon, voilà, la vie de l'émancipation assez longue de Solange. Les échanges de lettres, évidemment, entre Clémence et Pierre. Voilà, et tout ce qui est en fait, je dirais, la restitution d'une époque.
Bien, merci Charlotte. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions dans le public ? Pas plus, parce que nous avons la prochaine table ronde là, qui va se presser. Et si vous n'avez pas de questions, on va remercier alors, nos auteurs, nos autrices. Gros débat, trice. Bien. Voilà, pour Le Dernier Bleuet de Daniel Martinigol et Isabelle Fournier. Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet, que vous retrouvez évidemment à la librairie, et 14-14, donc de Sylvain Edgar et Paul Béorn. Voilà, merci beaucoup, mesdames, et merci de votre présence. À très bientôt.